franceinter.fr.
Le 7-9 en direct du 36 où depuis ses bureaux fatigués et bientôt désertés, un siècle d'histoire criminelle vous contemple. Bonjour Richard Marlet.
Bonjour.
Aujourd'hui retraité de la police, vous avez dirigé pendant 10 ans, hein,
c'est ça
l'identité judiciaire. Et d'après la journaliste Patricia Touranchaud dans son livre sur le 36, vous avez fait basculer la police de Maigret dans le siècle des experts. On va en parler tout à l'heure de l'avancée de la police scientifique. Combien d'années passées au 36?
Écoutez, j'ai franchi les portes en 79.
Oui.
J'ai eu une petite escapade de 5 mois au cimetière des éléphants, l'inspection générale de la police nationale. J'ai demandé l'asile politique à la direction centrale de la police judiciaire, la Sûreté nationale en fait,
ouais,
pendant 2 ans. Et je suis revenu au Quai des Orfèvres en 2007 pour y rester jusqu'au 29 février 2016.
Ouais.
J'avais choisi la date en fait.
Et entre-temps, vous avez été chargé pendant 2 ans de superviser le déménagement du 36.
Un peu plus de 2 ans, depuis l'élaboration du cahier des charges, jusque, et ça c'était le plus important, le choix du projet.
Ouais.
Il y avait 5 candidats en fait, il fallait choisir le bâtiment qui fonctionnait le mieux. Et puis, 2 ans après, sur les aménagements des plans, etc., etc.
Vous avez donc fait partie des liquidateurs de ce lieu historique.
Je vous interdis de dire ça.
Oui, mais c'est la vérité, non?
Je crois pas, non.
Non. Alors, on
en parlera
tout à l'heure. Bonjour Frédéric Henry.
Bonjour.
Ancienne chef adjointe de la brigade criminelle de la PJ, aujourd'hui chef de la brigade d'exécution des décisions de justice. Combien d'années passées ici au 36?
Alors, la direction de la police judiciaire m'a accueilli en 1999.
Oui.
Voilà, donc, depuis ce temps-là, j'ai fait différents services.
Mais pas seulement ici au Quai de Gesvres aussi, un peu à côté.
Ouais. Voilà, les services territoriaux, notamment, donc dans la Petite Couronne et puis dans Paris Intramuros. 5 ans, comme vous disiez, à la brigade criminelle. Et puis, donc, la brigade de l'exécution des décisions de justice qui se trouve Quai de Gesvres.
Et ici, au 36, combien d'autres femmes autour de vous?
Nous sommes nombreuses maintenant.
Ah bon? Vraiment? On a l'impression de pénétrer dans un univers d'hommes ici encore. Non? C'est pas vrai?
Non,
c'est plus vrai?
C'est une image, effectivement. Alors, à tous les échelons, bien sûr, dans la police. Hein,
ouais.
Effectivement, il y a des femmes. Nous sommes nombreuses aussi maintenant en tant que commissaires. Et puis, nous arrivons à des postes, effectivement, de responsabilité pour être donc maintenant, en ce qui me concerne, chef d'une brigade centrale.
Avec nous également ici le patron, le directeur de la PJ de Paris. Bonjour Christian Sainte.
Bonjour Monsieur Cohen.
Déjà une longue carrière de grand flic à Lille, à Marseille, en Corse. Le 36, c'est particulier?
Moi, je suis un petit jeune ici, en fait, à l'image de cette
oui,
maison.
Oui, récent en tout cas.
Ça fait 2 ans et demi, effectivement, que j'ai eu l'honneur de prendre la direction de cette maison. Et c'est une grande famille, avec des compétences, des métiers, beaucoup de savoir-faire. Et beaucoup de liens humains. Ça a été souligné tout à l'heure aussi par Michel Faury, qui à un moment donné a répondu sur ce sujet-là. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment marque quand on franchit le Porsche en bas au 36.
Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici, précisément dans ce bâtiment, dans cet immeuble au 36? Est-ce que c'est le souvenir des grandes affaires criminelles ou la conscience qu'on a encore à traiter ici des plus grandes affaires criminelles, les plus retentissantes?
Les affaires les plus sensibles, elles arrivent nécessairement ici, en fait, au 36. Voilà. Donc effectivement, il y a l'histoire du 36 avec toutes ces affaires qui ont marqué, qui ont jalonné plus d'un siècle d'existence, des affaires réussies, des affaires qui sont sorties, comme on dit. Mais on sait aussi que tous les jours peut nous amener une affaire à nouveau qui va être très sensible, très particulière et qui marquera les esprits pour les années durant. Donc effectivement, il y a le souci que tout le monde a de faire aboutir les enquêtes, de les mener jusqu'à leur terme et finalement d'être à la hauteur de la réputation de ce mythe, de ce bâtiment et de cette institution.
Avec une force de frappe considérable, c'est-à-dire qu'en cas de grandes affaires ou d'affaires très retentissantes, vous pouvez mobiliser un grand nombre d'enquêteurs sur une même histoire.
C'est aussi une particularité de cette maison, c'est que par les parcours professionnels des uns et des autres de tout grade, les uns et les autres ont parcouru plusieurs métiers au sein de la même institution avec plusieurs spécialités. Et c'est vrai que, par exemple, le soir des attentats du 13, nous étions 850 sur le pont, du 13 novembre 2015, nous étions 850 sur le pont vers minuit. Voilà, ce qui est une force de frappe énorme.
Frédéric Henry, quand on vous demandait en préparant cette émission quel était votre meilleur souvenir, vous nous avez rappelé l'histoire d'un meurtre, d'un assassinat élucidé, celui d'une étudiante suédoise.
Oui, c'est une affaire effectivement assez emblématique et qui nous avait effectivement tous très fortement mobilisés quand j'étais donc à la brigade criminelle. C'était en 2008.
Ouais.
En fait, c'était effectivement une jeune touriste suédoise qui, à la sortie d'une boîte de nuit, s'est fait enlever et puis ensuite sauvagement assassinée par un délinquant sexuel multirécidiviste qui s'était présenté comme étant un faux chauffeur de taxi. partir de là, effectivement, on s'est mis une forte pression, bien sûr. L'opinion publique, en tout cas, était fortement choquée. Nous-mêmes, nous avons senti qu'il fallait effectivement se mobiliser fortement. Hein, plusieurs équipes ont été sur le pont aussi tout de suite, hein, dans les différents métiers, hein, qui nous animent, hein, en termes de recherche, bien évidemment, d'investigation, hein, technique, téléphonique, police technique et scientifique et autres. Et donc, nous avons travaillé d'arrache-pied, hein, jour et nuit, pour aboutir favorablement et interpeller, identifier déjà, hein, et puis localiser et puis interpeller dans un temps d'une petite semaine, en fait, cet individu. Voilà. On craignait effectivement une réitération, puisque, voilà, au vu du profil de l'individu, on savait qu'effectivement, il pouvait peut-être repasser à l'acte. Donc, effectivement, la course, c'était vraiment une course contre la montre. Et effectivement, c'est une affaire qui m'a marquée et effectivement, voilà,
énormément mobilisée. Et à Richard Marlet, on peut dire que les pires souvenirs des policiers ici, des enquêteurs, ce sont les affaires non élucidées.
Oui, bien sûr. Et puis, quant à moi, j'ai deux souvenirs particuliers, en fait. Je suis arrivé à la tête de l'identité judiciaire en 95. Donc c'était les attentats, donc évidemment c'est les scènes de crimes d'attentats.
Dont un attentat quasiment en face de l'autre côté de la Seine à Saint-Michel.
Oui, c'est ça. Alors celui-là, j'étais pas encore installé comme chef de l'identité judiciaire, c'était juste à côté. Mmh. Mais je me souviens notamment d'Orsay, où en fait la bombe explose alors que le RER est encore dans le tunnel. Donc la progression dans le tunnel est quelque chose d'assez éprouvant. Puis d'autres souvenirs, enfin, quand je sors de l'école des commissaires de police, ma première vraie scène de crime, c'est Thierry Paulin, l'auteur des Vieilles Dames. Et il n'y a pas de fichier automatisé des empreintes digitales et on n'arrive pas à l'identifier. Et puis quelques années après, j'en croise un deuxième, c'est Guy Georges. Et là, il n'y a pas de fichier d'empreintes génétiques, on n'arrive pas à l'identifier. Donc en fait, ce sont des souvenirs. Évidemment, les affaires sont sorties, mais elles auraient pu sortir plus tôt.
Et ce sont des échecs qui ont fait progresser, qui ont fait avancer la police scientifique.
Bien sûr que oui. Et c'est en fait le côté désagréable, c'est quand la police est réactive et lorsqu'elle n'est pas proactive.
Alors, il y a l'aspect scientifique dont on va parler tout à l'heure, reparler avec Richard Marlet, qui est un spécialiste. Et puis, il y a le côté flic. Vous disiez, Frédéric Conry, en préparant cette émission, que ce que vous aimiez dans ce métier, c'était le sens policier. C'est quoi le sens policier ?
C'est avoir le sens policier sur une enquête, c'est une stratégie d'enquête, voilà, voir qu'est-ce qu'on va faire pour effectivement aboutir positivement. Ben, c'est avoir du flair, avoir des bons réflexes, essayer effectivement d'analyser un peu le contexte, hein, d'une affaire, des circonstances, et puis faire effectivement en sorte qu'on puisse aboutir et solutionner les dossiers qui nous sont confiés. Parce qu'effectivement, travailler en PJ, ce qui est intéressant pour moi en tout cas, c'est effectivement d'aller dans un cœur de métier qui fait qu'on a les affaires les plus difficiles à traiter, les plus complexes, souvent les plus techniques. Et donc c'est ça qui nous fait tous vibrer et qui fait que voilà, on est tous fortement mobilisés et effectivement tout un chacun se montre toujours plein d'engagement et d'une disponibilité hors pair.
Christian Sainte, un souvenir de PJ particulier?
Oui, beaucoup, parce qu'effectivement les années passent vite et c'est dense, évidemment c'est un métier qui est très dense et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'aime, hein, qu'on l'adore, parce qu'on lui donne tout en fait en réalité. Mais les enquêtes criminelles, oui, restent quand même ce qui est à mon sens le cœur même de notre métier. Ça reste les affaires sur lesquelles il y a énormément d'affect en fait quelque part par rapport aux victimes. Alors c'est vrai évidemment sur du terrorisme, actuellement on est en plein dedans, donc c'est quelque chose qui nous concerne au quotidien, mais l'enquête criminelle reste quand même la plus belle des enquêtes. Et c'est vrai qu'au travers d'une carrière on voit des choses assez extraordinaires de ce point de vue là dans l'imagination des criminels et dans l'intérêt dans l'imagination qu'on doit mettre nous enquêteurs à déjouer en quelque sorte tout ce qui a été mis en place par celui qui à un moment donné a essayé de nous tromper, de nous amener sur des fausses pistes.
Il faut rappeler que ce bâtiment n'abrite pas seulement la brigade criminelle mais aussi alors ce qu'on appelait, il y a les anciennes appellations, ce qu'on appelait peut-être encore aujourd'hui les stupes, la mondaine,
tout le monde est là en fait, et tout le monde est là avec des métiers, donc la BRI, hein, la brigade de recherche d'intervention, qui restera d'ailleurs.
Qui va rester ici pour être plus proche, pour être plus rapide en intervention dans Paris,
oui,
éventuellement.
Oui, c'est ça. On a fait le constat qu'en fait il faut intervenir tout de suite sur ces interventions, ouais. Et effectivement de la laisser sur un point central comme celui-ci est un gage d'efficacité, voilà, de réactivité plus forte. Voilà.